Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibault avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump prononce ce mardi son premier discours de politique générale face au Congrès pour son second mandat. Au Soudan, les paramilitaires des FSR et leurs alliés signent une constitution de transition. Ouverture d'un procès géant en Tunisie d'une quarantaine de personnes, dont de grands noms de l'opposition au président Kais Saied. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le président Donald Trump va s'adresser ce soir aux membres du Congrès et aux Américains lors de son discours prévu à 21h10, heure locale. Il va parler des grands dossiers de son administration, de sa vision des États-Unis et de ce qu'il a accompli pendant ses 44 premiers jours. Dilly Dico.
L'entrée du président est annoncée en grande pompe. Il prend place sur l'estrade auprès du leader de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson et le vice-président J.D. Vance. Cette année, il ne s'agit pas d'une adresse traditionnelle au Congrès, désignée par l'expression « State of the Union Address », le discours sur l'état de l'Union, mais plutôt d'un « Joint Address », un discours aux deux chambres réunies au Congrès. Le grand thème du discours a été révélé « The Renewal of the American Dream », le renouveau du rêve américain. Parmi les principaux dossiers figure le conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais ce ne sera pas le seul conflit abordé. La guerre entre Israël et le Hamas, la situation à Gaza doivent également avoir une place dans le discours. En matière d'économie et de politique commerciale, les analystes estiment que le président va expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi d'imposer au Canada, au Mexique et à la Chine des droits de douane entrés en vigueur ce mardi. Le président pourrait donner des détails sur sa stratégie visant la diminution des dépenses publiques, la réduction du gaspillage et de la fraude. Les démocrates ont choisi la sénatrice Alyssa Slotkin du Michigan pour donner leur réplique au président Trump.
Le président Trump a également ordonné une pause dans l'aide militaire américaine à l'Ukraine en guerre contre la Russie. Malgré cela, l'Ukraine reste déterminée à poursuivre sa coopération avec Washington, se disant prête à signer l'accord sur les minerais et explorant d'autres options avec ses partenaires européens. Nanit Talani.
Nous faisons une pause et réexaminons notre aide pour nous assurer qu'elle contribue à la recherche d'une solution au conflit entre l'Ukraine et la Russie, a déclaré hier un responsable de la Maison-Blanche sous couvert d'anonymat. Le président a clairement indiqué qu'il se concentrait sur la paix. Nous avons besoin que nos partenaires s'engagent eux aussi à atteindre cet objectif, a-t-il ajouté. Les États-Unis sont le premier bailleur financier et militaire de Kiev depuis le début de l'invasion russe. Nous ferons tout pour tenir bon, a réagi le premier ministre ukrainien. Il a affirmé que Kiev reste déterminé à coopérer avec les États-Unis malgré la suspension de l'aide militaire américaine qui pourrait mettre en péril la capacité de l'Ukraine à repousser les attaques russes. L'Ukraine se dit ouverte à des négociations avec Washington pour la signature d'un accord sur l'exploitation de ses ressources naturelles. Le Kremlin s'est félicité de la suspension de l'aide militaire américaine, estimant que c'est la meilleure contribution pour la paix. Mais Paris estime qu'elle éloigne plutôt la paix parce qu'elle ne fera que renforcer la main de l'agresseur sur le terrain qui est la Russie. L'Union européenne a présenté un plan de 800 milliards d'euros pour fournir une aide militaire immédiate à l'Ukraine et renforcer la sécurité de l'Europe.
Le sommet arabe extraordinaire consacré à Gaza s'est ouvert aujourd'hui au Caire. L'Égypte a proposé un plan de 53 milliards de dollars pour reconstruire Gaza sur 5 ans en se concentrant sur l'aide d'urgence, la restauration des infrastructures et le développement économique à long terme. Au Pakistan, au moins 9 personnes ont été tuées, dont 3 enfants et 2 femmes, quand un groupe pro-taliban a lancé 2 voitures béliers chargées d'explosifs sur une caserne militaire du nord-ouest du pays, frontalier de l'Afghanistan.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le procès de dizaines de personnes accusées de complot contre l'État, dont de grands noms de l'opposition au président Kais Saied, s'est ouvert ce mardi à Tunis. Les militants des droits humains dénoncent une affaire visant à étouffer toute contestation. Alexandrine Holognon.
Responsables de partis, avocats, figures des affaires et des médias, une quarantaine de personnes en tout sont poursuivies pour complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État et adhésion à un groupe terroriste. Des accusations passibles de lourdes peines de prison et jusqu'à la peine capitale. L'audience s'est ouverte en l'absence des accusés en détention, dont les autorités judiciaires ont décidé qu'ils comparaîtraient par visioconférence, une mesure vivement dénoncée par la défense. Parmi les accusés les plus connus figure un ancien haut responsable du parti islamiste Ennahda, Abdelhamid Djelassi, les militants Kayam Turki et Shaima Issa et l'homme d'affaires Kamel El Tayef. L'ex-députée et militante féministe Bouchra Beladr Midda, qui se trouve en France, en fait aussi partie. L'opposition dénonce un procès injuste de personnalité en vue en Tunisie. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a aussi de son côté dénoncé la persécution des opposants, estimant que nombre d'entre eux faisaient l'objet d'accusations vagues et larges après avoir vraisemblablement exercé leurs droits et libertés.
Les paramilitaires des forces de soutien rapide et leurs alliés au Soudan, engagés fin février à former un gouvernement parallèle, ont signé à Nairobi une constitution de transition. Ce texte a provoqué de vives critiques. Les précisions de Jean-Roger Bion.
La constitution de transition a été paraffée par 24 signataires, dont le numéro 2 des forces de soutien rapide, Abdel Rahim Daglo. Il y a 10 jours déjà, le 23 février, les FSA et leurs alliés, regroupés au sein de l'Alliance fondatrice du Soudan, avaient signé dans la même ville de Nairobi une charte fondatrice d'un gouvernement parallèle. L'annonce par les FSA et leurs alliés de leur intention de former un gouvernement de paix et d'unité avait suscité de vives critiques, notamment de l'ONU. Le gouvernement soudanais a, lui, dénoncé un dangereux précédent en violation du droit international, mais aussi vigoureusement critiqué le Kenya, accusé d'un soutien irresponsable aux rebelles. Le Soudan est le théâtre, depuis avril 2023, d'une guerre entre les FSA, dirigée par le général Mohamed Abdan Daglo, frère d'Abdel Rahim Daglo, et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays. Le conflit qui oppose les FSA à l'armée régulière soudanaise depuis près de 2 ans, a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 12 millions de personnes et engendré un désastre humanitaire.
Au Rwanda, le ministère des Affaires étrangères a jugé les critiques du Canada honteuses dans un communiqué. Hier, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a condamné dans un communiqué la présence des RDF, les forces de défense rwandaises en RDC et leur soutien au M23. Dans un communiqué co-signé avec les ministres du Développement international et du Commerce international, les ministres affirment que la présence du Rwanda chez son voisin constitue une violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC et de la Charte des Nations Unies. Le Canada a annoncé des restrictions commerciales. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des familles ont enterré ce mardi les victimes de l'attentat meurtrier qui a tué 17 personnes à Bukavu, tandis que les proches endeuillés ont demandé au gouvernement d'assurer la sécurité dans la région où les troupes de l'armée ont combattu les rebelles du M23. Par ailleurs, près de 80 000 personnes fuyant les violences qui déchirent l'est de la RDC ont trouvé refuge depuis début janvier dans des pays voisins. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui dans un communiqué le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Au Tchad, le MPS ou Mouvement Patriotique du Salut, parti présidentiel, le MPS a remporté 43 sièges sur les 46 sièges en jeu fin février lors des premières élections sénatoriales de l'histoire du pays selon les résultats proclamés aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Le premier parti d'opposition, les Transformateurs, a qualifié d'échec retentissant le processus électoral destiné à clore la transition. Toute l'opposition a appelé un boycott massif des scrutins organisés après la présidentielle en prédisant des résultats préfabriqués. En Côte d'Ivoire, des associations de santé publique s'alarment du gel de l'aide américaine à l'étranger. Lors d'une conférence de presse à Abidjan, Gisèle Takalea, vice-présidente d'un réseau d'associations de lutte contre le VIH, a dit craindre des conséquences désastreuses sur la réponse du VIH à la tuberculose et à la lutte contre le paludisme. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
La Côte d'Ivoire organise depuis lundi la première édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement au Palais de la Culture d'Abidjan. Ce rendez-vous réunit recruteurs, entreprises, cabinets de placement et structures de formation et de financement avec près de 50 000 opportunités d'emploi, de stages et de financement à saisir pour les jeunes. Dès le premier jour, plus de 8 000 jeunes se sont rendus sur place. La foire se poursuit jusqu'au mercredi 5 mars. La Libye prévoit de lancer son premier appel d'offres pour l'exploitation pétrolière depuis plus de 17 ans, a annoncé lundi la Compagnie nationale de pétrole. Les investisseurs étrangers étaient réticents à investir en Libye, qui est dans un état de chaos depuis le renversement de Muammar Kadhafi en 2011. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui dépend des États-Unis pour près de la moitié de son budget, ferme son bureau en Afrique australe en raison de contraintes de financement, a annoncé lundi l'agence, alors que la région lutte pour résister à une grave sécheresse. La nouvelle administration américaine a mis fin à plus de 90% des contrats d'aide à l'étranger de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Les coupes budgétaires dans ce domaine représentent globalement plus de 58 milliards de dollars.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Nous revenons sur la signature de contrat de Rigobert Song comme sélectionneur de la République centrafricaine.
Oui, nommé en janvier, le nouveau sélectionneur des Fauves du Bazoubangui a signé son contrat lundi avec le ministère des Sports, malgré la contestation de la fédération. Pour Jules Valentin Ngoué, en acceptant le challenge centrafricain, Rigobert Song veut se relancer.
Si on regarde le contrat qui est proposé à Song, qui est de 4,5 millions par mois, Song en fait a besoin de rebondir à l'international, mais ce n'est pas tellement le contrat en tant que tel et sur le plan lucratif qui l'intéresse. Et si on se penche sur le côté sportif, on dirait que la carte de visite de Song n'est pas si mauvaise que cela. Il a qualifié le Cameroun de la Coupe du Monde. Il a ramené 4 points d'un groupe qui était difficile avec le premier du haut classement mondial qui était le Brésil à ce moment, la Serbie, la Suisse qui étaient quart de finaliste de l'Euro. Pendant la CAN ivoirienne, son équipe a été complètement décimée par les blessures, mais il s'est fait éliminer en 8e de finale comme Aliou Cissé. Donc je crois qu'il y a plus de dramaturgie autour de cette liste que la facette sportive.
Jules Valentin Ngoué, consultant sportif.
Football toujours avec les matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe.
Dortmund Essérou Guirassy fait face à Lille à bientôt 29 ans. L'international guinéen sera le principal atout offensif du Borussia ce soir contre le club français où il a brièvement évolué à ses débuts. Si Dortmund se retrouve à disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club de la Roure le doit en grande partie à Essérou Guirassy, meilleur buteur de la compétition reine du football européen avec 10 buts, soit un de plus que Robert Lewandowski et deux de plus qu'Erling Haaland et Rafinha pour sa première saison en Ligue des champions. À suivre aussi un nouveau derby de Madrid entre le Real et l'Atlético, Arsenal du Ghanéen Thomas Partey joue contre le PSV Eindhoven et Aston Villa fait face à Bruges.
Basketball, ici en NBA, Alexander a encore brillé la nuit dernière.
Le Canadien, meilleur marqueur de la NBA cette saison, a inscrit 51 points, délivré 7 passes décisives et réussi ses 10 lancers francs permettant au Thunder d'Oklahoma City, solide leader de la conférence Ouest, de s'imposer 137-128 contre les Houston Rockets à Memphis. Les Hawks d'Atlanta ont pu compter sur le Français Zachary Rissagier pour dominer les Grizzlies 132-130. Le numéro 1 de la dernière draft a mis 27 points, finissant meilleur marqueur d'Atlanta. Les Hawks retrouvent ainsi la victoire après 2 défaites et sont 9e à l'Est. De son côté, avec ses 21 points et 10 passes décisives, Stephen Curry a mené Golden State à la victoire contre les Hornets, la franchise de sa ville natale Charlotte, 119-101. Les Dallas Mavericks ont eux perdu leur star Kyrie Irving, blessé au genou gauche, avant de perdre 122-98 contre les Sacramento Kings.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. De nouveaux droits de douane américains sur les importations en provenance de Chine, du Canada et du Mexique. Les trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis sont entrés en vigueur aujourd'hui. Les importations en provenance des deux voisins des États-Unis seront désormais taxées à hauteur de 25% et 10% pour les hydrocarbures canadiens. Pour une analyse, John Lindod, adjoint à Montréal au Canada, l'économiste Boris Wenou.
Je crois que deux choses très rapidement. La première chose, c'est que Trump, comme on le dit, il exécute ce qu'il dit qu'il va faire. Voilà. Donc, il faut toujours le suivre. Lorsqu'il annonce quelque chose, c'est qu'il a vraiment en tête, même si vous proposez des solutions intermédiaires, qu'il a toujours en tête de pouvoir exécuter. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment tient sa parole. Donc, il faut toujours compter avec lui en politique internationale sur ces aspects-là, compter avec lui. Le deuxième élément, c'est que il a une conviction forte concernant vraiment le rôle que pourraient jouer les tarifs dans le rééquilibrage en fait du commerce international, mais aussi pour utiliser les tarifs comme élément de punition vis-à-vis des acteurs étatiques qui pourraient être dans une situation en train de créer des questions de sécurité affectant par exemple son agenda politique d'immigration aux États-Unis. Donc, il utilise vraiment cette arme-là autant qu'il peut avec cet agenda politique derrière, mais aussi avec l'agenda politique qui est clairement America First.
Alors, pour ce qui est du Canada et du Mexique, l'administration Trump justifie la mise en œuvre de ces tarifs par la complaisance, entre guillemets, des autorités canadiennes et mexicaines dans la lutte contre l'entrée aux États-Unis des immigrants illégaux et des drogues fortes. Est-ce qu'il y a une porte de sortie à cette crise ou alors on va s'engager dans une guerre commerciale ouverte entre ces pays?
Bon, voyez-vous, les États-Unis n'ont que ces deux frontières. Donc, si le pays veut contrôler le flux illégal d'immigrants comme Trump veut le faire, il n'y a que ces deux pays à attaquer. Et donc, la raison est très claire. Il y a des chiffres annoncés par Trump lui-même qui ont démontré que les entrées d'immigrants illégaux sur la frontière mexicaine vers les États-Unis ont drastiquement baissé pendant le premier mois de son mandat. Et donc, il dit qu'il est vraiment dans une logique qu'en essayant de menacer, il obtient des résultats. Donc, c'est la première chose qu'il veut faire passer comme message pour sa population. Vu du côté du Canada, franchement, les chiffres sont vraiment très maigres. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment un reflux d'immigration qui veut aller aux États-Unis, qui n'arrive pas à passer par la frontière sud et qui passe peut-être par la frontière nord. Franchement, c'est complètement difficile à soutenir comme argument. Mais non, très clairement, ça c'est la logique de Trump, que j'obtiens des résultats en utilisant les tarifs. Est-ce qu'il y a une fin à ça? On attend maintenant une fois que les tarifs ont été mis, quels sont les résultats qu'on obtient? Si les résultats sont positifs, vont dans le sens que ce que Trump veut, je pense qu'il va continuer. Parce qu'il est quelqu'un qui a orienté résultats et qui a mesuré les chiffres. Tant qu'il les obtiendra, la politique pourrait continuer.
C'était l'économiste Boris Wenou.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a suspendu hier toute aide militaire à l'Ukraine, trois jours après une rencontre tendue avec son homologue Volodymyr Zelensky, qui a dû quitter la Maison-Blanche sans accord sur les minerais. Ces derniers développements sont suivis de près, surtout en Europe. Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, nous en dit plus. Récit Yakuba Ouedraogo.
L'Europe s'inquiète de plus en plus de l'avenir de l'Ukraine après l'échange tendu de la semaine dernière entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette dispute dans le bureau ovale a mis fin à un accord portant sur des minéraux des terres rares qui, selon M. Trump, étaient essentiels à la poursuite du soutien des États-Unis à l'Ukraine. Lundi, le président qui a le sens des affaires a martelé son point de vue. Si l'Ukraine veut survivre, a-t-il dit, Zelensky doit conclure un accord de paix.
Nous devons conclure un accord et cet accord peut être conclu très rapidement. Ce ne devrait pas être un accord si difficile à conclure. Je crois que la Russie veut conclure un accord. Je crois certainement que le peuple ukrainien veut conclure un accord.
Plus tôt dans la journée de lundi, M. Trump a publié un message sur les réseaux sociaux dénonçant les inquiétudes de M. Zelensky, qui craignait que la guerre ne se poursuive encore longtemps. Les analystes disent qu'ils ne peuvent pas prédire la prochaine action de Trump sur l'accord commercial qui est à la base de tout cela. Anna Borchef-Kaya est chargée de recherche à l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient.
On ne sait pas encore très bien quel est le plan de Trump. Ce que nous pouvons également voir, ce qui est apparu au cours du week-end, c'est que l'Europe s'apprête à faire davantage pour dissuader la Russie.
Zelensky a quitté la Maison-Blanche vendredi et s'est rendu chez ses alliés européens. Le premier ministre britannique, Keir Starmer, lui a apporté son soutien, réitérant l'offre britannique de soldats de la paix et annonçant 2 milliards de dollars pour 5 000 missiles de défense aérienne pour l'Ukraine.
Mr. Speaker, it is right that Europe do the heavy lifting.
Monsieur le Président, il est normal que l'Europe fasse du gros travail pour soutenir la paix sur notre continent. Mais pour réussir, cet effort doit également bénéficier d'un soutien fort de la part des États-Unis.
US backing.
Lundi encore, les deux hommes au centre de cette guerre ont délivré leur message au monde, montrant à quel point ils sont éloignés l'un de l'autre dans ce conflit qui enlise l'Europe depuis 3 ans. Volodymyr Zelensky, président ukrainien.
Je pense que le soutien des États-Unis se poursuivra à un niveau égal, car l'échec de l'Ukraine n'est pas seulement le succès de Vladimir Poutine, c'est l'échec de l'Europe, c'est l'échec des États-Unis d'Amérique. Je pense que nous avons tous intérêt à ne pas donner à Poutine l'occasion de gagner.
Et le porte-parole du président russe Vladimir Poutine, Dmitri Peskov.
Ils veulent que la guerre continue. Par conséquent, dans cette situation, il est évident que les efforts de Washington et la volonté de Moscou ne suffiront pas, car il manque un élément crucial.
À Washington, la Maison-Blanche a confirmé à VOA qu'elle avait augmenté la pression, déclarant que l'administration fait une pause et examine notre aide pour s'assurer qu'elle contribue à une solution. Et Trump a annoncé sa prochaine grande annonce sur l'Ukraine.
Je vais faire un discours. Vous en avez probablement entendu parler demain soir. Alors, je vous le dirai demain soir.
C'est le discours qu'il prononcera devant une session conjointe du Congrès, ce soir, heure de Washington.
Au Togo, des partis de l'opposition et certaines organisations de la société civile ne démordent pas sur la contestation de la Constitution adoptée l'année dernière qui instaure un nouveau régime politique de type parlementaire dans le pays. Rassemblés dans un nouveau cadre de travail et de réflexion, ils veulent passer par tous les moyens légaux et la mobilisation populaire pour faire barrage à l'application de cette nouvelle loi fondamentale qu'il qualifie de forfaiture. De Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Wosou.
Alors que le gouvernement procède à l'installation des nouvelles institutions prévues par la nouvelle constitution, notamment le Sénat, dont une partie des membres vient d'être élue, le cadre créé par certains partis de l'opposition et des organisations de la société civile se veut le dernier rempart contre un système qu'il qualifie de véritable crime contre la nation togolaise. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement ANC.
Organisations de la société civile, soucieuses de contribuer à engager une action de contestation à la mesure des enjeux, ont initié ensemble avec la classe politique de l'opposition une démarche dont l'objectif est de créer un espace d'action commune, avec pour fondement une collaboration basée sur la confiance et la volonté farouche de s'opposer à la forfaiture de la nouvelle constitution.
Maître Dodi Apevon, président des FDR, membre du cadre, n'entend pas céder face aux manœuvres du pouvoir qui continue de dérouler son agenda de la Ve République malgré les récriminations de l'opposition.
Ce qui nous arrive là, c'est quelque chose d'ubuesque, d'incompréhensible. C'est une résistance que nous opposons à ce pouvoir. Qu'ils comprennent que nous ne sommes pas tous couchés.
Il n'y a pas longtemps, Robert Olimpio, membre influent de l'Alliance nationale pour le changement, prônait la même fermeté contre les agissements du pouvoir. Aujourd'hui, élu sénateur et exclu de son parti, il appelle ses amis d'hier à reconsidérer leur position pour l'intérêt du peuple.
Nous avons eu quel résultat en suivant un chemin qu'on a choisi de suivre. 5 ans après ou 10 ans après, on doit faire toujours la même chose. Non, il faut avancer dans la vie. À un moment donné, il faut changer de paradigme.
En tout cas, David Dosset du Front Citoyen Togo Debout, une organisation de la société civile, ne l'entend pas de cette oreille. Il prône la mobilisation populaire.
Pour nous, c'est le début vraiment de la resensibilisation. C'est le début surtout de la remobilisation parce que nous sommes convaincus que seule la mobilisation populaire massive peut permettre d'arrêter cette machine infernale qui n'a que trop duré à la tête de cette nation et qui a détruit la dignité et la liberté du peuple togolais.
Pour l'heure, les députés qui étaient en vacances sont appelés à une session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui permettra certainement de boucler les réformes institutionnelles pour l'avènement d'un régime parlementaire plein et entier au Togo. Kossi Oussou Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé. Sur 102.3 FM.
Les frappes aériennes au Soudan, en particulier au Darfour, se sont intensifiées, causant de nombreuses victimes civiles. Depuis Adré au Tchad, Henry Wilkins raconte l'histoire de Khadija, une réfugiée qui a perdu son fils lors d'une de ses attaques aériennes dans la guerre civile qui oppose les forces armées soudanaises aux forces paramilitaires de soutien rapide. Nanit Talani.
Cette vidéo, que la VOA n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante, prétend montrer les conséquences d'une frappe aérienne. Un groupe de défense des droits des Darfouriens affirme qu'elle a eu lieu le 21 janvier dans la ville de Niala, dans la région soudanaise du Darfour. Des corps de bébés et d'enfants sont éparpillés, tandis que ceux qui semblent être des civils gisent en sang sur le sol. Khadija, qui a demandé que son identité soit protégée par crainte de représailles, a déclaré échapper à une frappe aérienne similaire quelques jours avant d'être interviewée pour ce reportage.
C'était l'armée de l'air. Ils n'avaient pas l'intention de tuer mon fils, mais comme les forces de soutien rapide se trouvaient dans la région, il a été tué par accident alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Le corps était en mauvais état. Nous devions donc nous assurer que ses frères et sœurs ne le voient pas. Nous avons dû emporter son corps rapidement.
L'histoire de Khadija n'est pas inhabituelle. Les groupes de défense des droits de l'homme critiquent les forces armées soudanaises pour avoir mené des frappes aériennes dans des zones civiles du Darfour. Abdoulaye Hassan est chercheur sur le conflit soudanais pour Amnesty International.
Les frappes aériennes qui ont lieu au Soudan en général et en particulier au Darfour sont principalement des attaques menées par les forces armées soudanaises. Nous avons reçu des informations sur lesquelles les forces armées soudanaises ont mené des frappes, par exemple dans la ville de Niala, dans le sud du Darfour.
Abdoulaye Hassan, qui est également avocat kényan et défenseur des droits de l'homme, a souligné que le droit international exige des parties belligérantes qu'elles assurent la sécurité des civils, même dans les zones où les forces ennemies sont présentes. Au début de la guerre, il y a près de 2 ans, les forces armées soudanaises étaient les seules à pouvoir effectuer des frappes aériennes. Cependant, un rapport de Reuters du 26 février a révélé que des images satellites montrent que les forces paramilitaires de soutien rapide disposent d'au moins 3 drones dans un aéroport du sud Darfour. Début janvier, les États-Unis ont accusé les forces de soutien rapide de génocide. M. Hassan indique qu'Amnesty International enquête sur les récentes informations faisant état d'attaques de drones par les FSR. Reuters rapporte que les drones semblent être de fabrication chinoise. Ni les FSR, ni les forces armées soudanaises n'ont répondu aux demandes de commentaires. Pour Khadija, la perte de son fils est un choc dévastateur et le souvenir qu'elle en garde reste très fort.
Il aimait ses frères et sœurs, il l'aimait beaucoup. Je ne me suis jamais séparé de lui. J'étais avec lui 24 heures sur 24.
Alors que le conflit au Soudan fait rage, le coût civil des frappes aériennes aveugles devient de plus en plus évident.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique, bien sûr.